écoute Zoom Écologie sur Radio Fréquence Paris Pluriel, tous les jeudis à 20h30.
On ne se dit pas, tiens, je vais aller me balader. On se dit, est-ce que j'ai pris mes papiers pour aller ramasser les plumes verts ou des choses comme ça.
Montrer cette répression commune pour ensemble ensuite construire des luttes beaucoup plus solidaires.
C'est pas que du négatif, c'est une lutte, je pense, est plus intense, voilà, parce que bon, c'est de mon côté, mais surtout c'est de mon côté quand même. C'est pour ça qu'on vient, quoi.
Les 1, 2 et 3 juin prochains a lieu le procès des malfaiteurs au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. Malfaiteurs, c'est ainsi que les 7 personnes dont c'est le procès se surnomment, en référence à une des infractions pour lesquelles elles sont mises en examen. Cette infraction, accrochez-vous, c'est celle d'association de malfaiteurs établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Pour comprendre ce qui se trame, il faut savoir que ces 7 personnes sont toutes opposantes au projet d'enfouissement de déchets nucléaires Cigéo en Meuse. Cette opposition a 20 ans. 20 ans que se succèdent les manifestations, les rassemblements festifs, les blocages et les pétitions, pour dénoncer un projet jugé autoritaire, dangereux pour l'environnement et la population. Pour comprendre ce qui se trame, il faut aussi avoir en tête la chronologie des événements. Le 21 juin 2017, des dégradations sont commises dans un hôtel-restaurant proche du laboratoire de l'ANDRA. L'ANDRA, c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. C'est le gestionnaire du projet Cigéo. Suite à ça, une instruction judiciaire, c'est-à-dire une enquête, est ouverte. Elle a pour objectif non pas d'enquêter sur les faits, mais sur le groupement de personnes les ayant permis. Elle est ensuite élargie à des dégradations commises contre un bâtiment de l'ANDRA en février 2017, et à l'organisation d'une manifestation non déclarée le 15 août de la même année, qui tourne à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Ça veut dire que l'enquête porte aussi sur ces faits. De 2017 à 2019, dans le cadre de cette instruction, du matériel et de documents sont saisis chez les opposants et opposantes au cours de nombreuses perquisitions. Le 20 juin 2018, 5 personnes sont interdites d'entrer en contact les unes avec les autres par contrôle judiciaire. On leur interdit également de se rendre à Bure et à Saudron, deux communes meusiennes où la lutte est active, et dans tout le département meusien pour 2 d'entre elles. Ces interdictions ne sont levées qu'en décembre 2020. La conséquence de cette instruction, c'est que de 2017 à 2019, pour enquêter, du matériel et des documents sont saisis chez des opposants et opposantes au cours de nombreuses perquisitions. Au total, jusqu'à 10 personnes sont mises en examen pour divers motifs, avant que 3 d'entre elles ne bénéficient de non-lieu. Certaines des 7 personnes restants, qui sont toujours mis en examen, courent jusqu'à 10 ans de prison. Cette instruction a permis que des dizaines de personnes soient placées sur écoute, que des dizaines de milliers de conversations et de messages soient interceptés. Les conversations téléphoniques interceptées représentent plus de 16 ans de temps cumulé. Devant ce constat, la LDH, la Ligue des droits de l'homme, parle de harcèlement judiciaire et dénonce la criminalisation de la lutte antinucléaire en Meuse. En quoi cette affaire est-elle révélatrice de la surveillance dont font l'objet les mouvements antinucléaires en France, mais aussi de l'utilisation du droit pénal toujours en France pour surveiller et réprimer les mouvements sociaux? Une radieuse mène l'enquête.
Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de la manière dont tu as vécu cette période et cette présence et cette répression policière?
Alors moi je suis arrivé je connaissais Bure depuis un moment, mais je suis arrivé vraiment sur place un petit peu après les premières grosses perquises de septembre 2017.
Jordi, militant en Meuse depuis 2017.
Et je suis arrivé à un moment où les gens accusaient un peu le coup, mais où il y avait encore quand même beaucoup de gens, beaucoup d'énergie sur place. Bon, moi, j'étais très content, mais je voyais qu'il y a des gens qui étaient un peu plus soucieux, qui se demandaient comment ça allait continuer, tout ça. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de mise en examen, de choses comme ça, donc c'était encore assez facile de se dire qu'on allait continuer à lutter pleinement. Moi, de comment j'ai vécu, en fait, ça a été un petit peu progressif, parce que après ces premiers événements, en fait, il y en a eu d'autres que moi j'ai par contre un peu plus vécu, notamment au cours des manifestations qu'il y a pu y avoir en 2018, où il y a vraiment commencé à... On a senti que la présence policière et la surveillance étaient accrues, ce qui a été d'ailleurs le cas. Ils ont cherché, en fait, par la suite, dans ces événements, à accumuler des informations sur la manière dont les gens luttaient, de qui militaient, de qu'est-ce qui allait s'organiser. Donc on sent que c'est 2010, fin 2017, il y a vraiment eu un basculement sur la manière dont ça a été perçu par le camp d'en face. Et ça a commencé à devenir un petit peu plus concret en 2018. Donc en juin 2018, il y a eu une nouvelle vague de perquisitions. Donc à partir de là, on a commencé à se dire que les endroits où on dormait, potentiellement le lendemain à 6h, on pouvait avoir des flics chez nous, ce qui change un petit peu le rapport au quotidien quand même. Et sans parler évidemment les allers-retours de voitures de gendarmes qui fait que ça fait une ambiance un peu particulière d'être en pleine campagne et de pas trop oser s'aventurer hors des maisons. Bon. Donc la vie continuait, mais disons que ces questions de sécurité et de surveillance, on ne pouvait pas en fait en faire abstraction, et on était obligé de penser à notre sécurité à nous, de fermer les portes, de ne pas laisser leurs ordi allumés, enfin toutes ces choses-là qui font que en fait ça prenait beaucoup de place dans les vies. Bon, on pourrait se dire maintenant le dossier
d'instruction judiciaire,
c'est fini, a priori on sait un peu plus où on va d'un point de vue de la répression. Mais évidemment, ça, c'est quelque chose qui continue toujours.
Ça veut dire quoi, une ambiance particulière ou un rapport particulier à l'espace ?
Au quotidien, j'habite pas sur place. Moi, j'habite toujours en Meuse, mais j'habite pas sur place. Mais je sais que je pars pas. Moi, je vais pas aller acheter le pain en laissant mon ordi allumé chez moi, ouvert chez moi. Enfin, c'est des choses que je fais pas, par exemple. Ou quand on est dans une pièce. On se dit peut-être qu'il y a des micros, en fait on n'en sait rien, mais on se dit non, il n'y a pas de micro quand même et on vit. Mais en fait, à chaque fois qu'on a des interactions, que ce soit pour des choses militantes ou même autres, des fois on a toujours un peu ces considérations en tête. Ça change aussi un rapport que beaucoup de gens surveillés ont eu au téléphone, de se dire j'ai plus trop envie d'appeler des gens pour raconter ma vie. J'ai peur d'appeler mes proches des fois parce que j'ai peur qu'ils me posent des questions. Bon, ce qui fait qu'on le fait quand même, mais ça change un peu le rapport notamment à la technologie, aux espaces. C'est se dire en fait qu'on n'est pas forcément surveillé, mais que c'est possible. Quand je retourne sur les lieux là-bas, ça fait une présence qui est lourde, quoi. On se dit pas. Ah tiens, je vais aller me balader. On se dit, est-ce que j'ai pris mes papiers pour aller ramasser des primes verts ou des choses comme ça. C'est un peu... C'est particulier quand même.
Comment est-ce que tu as ressenti cette présence policière et comment tu l'as ressenti
2020-2021.
Julia, militante en Meuse depuis 2018.
C'était assez calme au niveau de la présence policière. On note quand même qu'il y a, en fonction de certaines semaines, une présence policière plus forte. C'est notamment lié, ce qui nous semble en fait, au renouvellement des escadrons. Voilà, ce sont les escadrons de gendarmerie qui arrivent ici, viennent un peu partout en France. Et on remarque qu'en fait, ils ne sont pas forcément... empreintes du territoire, ils arrivent à un endroit où ils ne connaissent pas les codes, ils ne connaissent pas la culture et les modes de vie qu'il peut y avoir ici, qu'on soit opposant ou pas. Donc des frictions apparaissent toujours. En fait, on sort à Bure, ça peut arriver qu'on tombe sur une cible qui s'arrête momentanément, qui tente de faire un contrôle d'identité et puis après ça peut se poursuivre jusqu'en garde à vue, jusqu'au commissariat, voilà.
Garde à vue, mesure de privation de liberté prise à l'encontre d'un suspect lors d'une enquête judiciaire.
C'est pas des événements qui sont systématiques forcément, je suis pas en train de dire que ça arrive de manière récurrente, c'est juste simplement ça se passe toujours en fait.
Alors que ici, les gens ont aussi envie de pouvoir vivre de manière normale et non pas d'avoir une Jeep qui passe devant chez eux toutes les 3 heures, 2 ou 3 fois par jour, qui relève les plaques d'immatriculation, qui prennent en photo donc les passants. Comment on apprend à vivre avec ça? Comment on exprime nos positions et comment en fait on a envie de continuer à vivre sur ce territoire?
Parce que là, on le rappelle, quand tu me parles de Bure et du coup de la maison de résistance qui est à Bure, on parle d'un village de 83 habitants. Et là, tu viens de parler de la présence d'une Jeep qui passe toutes les 3 heures dans le village. Concrètement, ça fait quoi juste d'avoir la police en permanence dans un village aussi petit, dans un territoire très rural?
Alors, c'est pas simplement le village de Bure, c'est un territoire cible de plus de 10 km à la ronde. On va dire que c'est 6 villages concernés qui sont cibles. C'est un territoire qui a 7 habitants au kilomètre carré, donc une présence policière quand même un petit peu constante pour une densité de population aussi faible. Ben forcément, on les voit passer quoi. Donc on s'y habitue dans le sens où ça ne nous surprend plus. Par contre, on ne l'oublie pas et on le note toujours. J'ai l'impression que c'est qu'on soit de toute façon opposant ou pas. On s'en épie, on sait qu'ils passent avec la Jeep, ils ont forcément une caméra. On est en voiture, on est à pied, les contrôles d'identité sont forcément plus fréquents qu'ailleurs. Ça fait partie un petit peu du quotidien, quoi.
Le contrôle judiciaire et la surveillance, c'est comme un sixième sens qui nous met constamment en alerte. C'est comme une cartographie émotionnelle qui se superpose à notre perception de l'espace et qui dessine des murs et des frontières invisibles comme peut le faire le couvre-feu ou le confinement. Il y a les endroits où on ne peut plus aller, les gens qu'on ne peut plus voir et avec qui on ne peut plus communiquer. Nous intériorisons le contrôle. Pour nous préserver nous-mêmes, mais aussi et surtout chacun et chacune d'entre nous. Tout ça pendant 2 ans et demi.
De cette surveillance a été permise par l'instruction judiciaire ouverte en 2017. Le juge d'instruction, en charge de l'enquête, est autorisé dans ce cadre à procéder à des perquisitions ou à des mises sur écoute, par exemple. Cette enquête a été ouverte suite à des dégradations commises le 20 juin 2017. Mais de quoi s'agit-il exactement? Le 21 juin 2017, François Malru, gérant de l'hôtel-restaurant du Bain d'Œil, et Julien, militant anti-nucléaire installé au Bois-le-Jus, témoignent au micro de France Bleu.
Ils m'ont bousillé la machine à café, ils ont tous les verres qui étaient pendus ont été détruits, des tables dans le restaurant, les tables de terrasse, les fûts de bière, la bière pression, ils avaient ouvert tous les robinets, tout coulait à flot partout. Et surtout, ils ont épandu une bouteille et demi d'essence qu'ils ont allumé. La dernière bouteille, elle n'était pas complètement vide. Ils l'ont allumé, ils l'ont jeté au milieu de l'entrée. Quand ils ont vu le responsable de cuisine, il avait pris un extincteur pour éventuellement se protéger. Et quand ils ont vu ça, ils sont partis. Quoi. Ils ont dit non, c'est cassé, ils sont partis.
Cet hôtel-restaurant a vocation en fait à loger en fait les cadres de l'Andra. Oui, c'est envoyer un message très fort à l'Andra que on ne veut pas de l'Andra dans le territoire. On ne veut pas que ces cadres soient logés et restaurés dans le territoire, jusque le laboratoire plus boutique, comme s'il n'avait jamais existé. Je me doute s'il y a une réelle tentative d'incendie, je suppose qu'il y aura une enquête.
Il y a en effet une enquête. Mais qu'est-ce que ces événements ou d'autres, on a parlé en introduction de dégradation dans un bâtiment de l'Andra ou d'une manifestation non déclarée, qu'est-ce que ces événements ont déclenché? Pourquoi la presse s'est-elle autant attachée au délit d'association de malfaiteurs? Analyse avec Margot et Antoine, jeunes juristes en droits humains, qui travaillent depuis plusieurs années sur des questions liées à la répression de militants et militantes.
Ce procès, c'est l'aboutissement d'une très grande phase d'enquête et d'instruction. Et donc on a 7 personnes qui sont poursuivies. Principalement, ce qui retient l'attention des médias et qui nous retient notre attention, c'est qu'un certain nombre sont poursuivies pour association de malfaiteurs.
Elles ont été mises en examen, pas toutes pour les mêmes motifs. Donc, on a beaucoup parlé de l'association de malfaiteurs, mais il y a également d'autres infractions comme détention, complicité en bande organisée de produits incendiaires, dégradation d'un bien d'autrui par un moyen dangereux et divers autres motifs.
Mais c'est juste que celui de l'association de malfaiteurs, c'est celui qui politiquement retient l'attention.
Est-ce que vous pouvez me dire très concrètement de quoi il s'agit?
Alors, une association de malfaiteurs, c'est le fait pour plusieurs personnes de former un groupement ou une entente, c'est-à-dire se mettre d'accord afin de préparer un délit. Et il faut aussi que ce délit soit caractérisé par des faits matériels. Donc, c'est plusieurs éléments. Mais ce qui est pratique avec l'association de malfaiteurs, c'est que c'est en fait finalement assez vague et le but, c'est de... Pour l'accusation, ça va être de démontrer qu'il y a des gens qui se sont entendus, c'est-à-dire qui se sont mis d'accord, seulement pour préparer quelque chose. Et il suffit qu'ils aient quelques éléments matériels du délit en question pour pouvoir les condamner.
L'association de malfaiteurs, c'est aussi un délit qui permet à l'enquête de se tourner moins vers le passé que vers le futur et vers les événements futurs, c'est-à-dire... qui peut aussi intervenir en préventif, on pourrait dire, par la police et par les magistrats, donc pour enquêter sur des gens qui prépareraient dans le futur un délit. Et c'est des choses qu'on retrouve plutôt dans d'autres types de procédures pour associations de malfaiteurs, quand on va enquêter sur la criminalité organisée, en fait, dans le contexte de la lutte contre le projet Sigelo à Bure, ça a permis, en fait, de prévoir et d'analyser, de faire du renseignement sur tout ce qui se préparait du côté des militants, que ce soit légal ou pas, en l'occurrence.
On peut parler d'un délit d'association de malfaiteurs ou on parle d'une infraction seulement?
Une infraction, c'est général, ça concerne les crimes, les délits et les contraventions. Donc, tu peux utiliser l'un ou l'autre, juste les délits, c'est ceux qui sont punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement.
Le 27 avril 2020, les médias en ligne Reporters et Mediapart publient une enquête sur l'ampleur de la surveillance des militants et militantes antinucléaires à Bure et dans ses environs. Il y est documenté, attention la liste est longue, la mise en place d'une cellule d'analyse criminelle, normalement utilisée pour des crimes particulièrement graves selon les journalistes, le fichage de 118 personnes, la mise sur écoute d'une trentaine de personnes pendant des durées allant de 4 mois à 1 an, 16 ans de temps cumulé de conversations téléphoniques interceptées, plus d'un millier de conversations retranscrites. Devant l'ampleur des moyens déployés, les journalistes se demandent si cela n'a pas été trop loin, si les dégradations commises justifient une telle enquête. Olivier Glady, le procureur de l'époque, le procureur c'est-à-dire le magistrat à la tête du parquet qui a demandé l'ouverture de l'instruction, mais qui peut aussi produire des réquisitions pour que soient faits des contrôles d'identité, Olivier Glady donc répond.
Un certain nombre des infractions, notamment l'association de malfaiteurs, exige, dans l'élucidation éventuelle de la caractérisation de cette infraction, que soient mises en relief les relations qui existent entre les uns et les autres. Inéluctablement, vous devez établir le fonctionnement d'un organisme, d'une organisation. Si on veut disséquer cette association de malfaiteurs, inéluctablement, il faut savoir qui pouvait en faire partie.
Inéluctablement, vraiment, qu'en pense le procureur actuel, Sofian Boulard ?
Vous êtes en relation avec le palais de justice de Bar-le-Duc. Nous allons vous répondre.
Du parquet, bonjour.
Oui, bonjour, je suis journaliste à Fréquence Paris Pluriel et je vous appelle à propos du procès qui va avoir lieu les 1, 2 et 3 juin de l'association de malfaiteurs de Bure. Je cherche à avoir des témoignages et je voulais savoir qui pourrait me répondre à ce sujet.
Vous pouvez toujours essayer de transmettre un mail au procureur. Je peux vous donner la bonne secrétariat si vous voulez, mais alors après, là-dessus, pour répondre à ça, dans le cadre d'une instruction, je ne sais vraiment pas.
Je veux bien donc le mail si, vous, si c'était
alors,
possible.
Donc c'est SEC comme secrétariat, SEC.
Oui.
PR comme procureur république.
PR.
PR comme procureur république.
D'accord.
.tj comme tribunal judiciaire.
Mm-hmm.
-du6-mieu.
Ouais.
/BAR.
Ouais.
À nouveau-le.
Ouais.
À nouveau-duc.duc.
Mm-hmm.
@justice.fr.
Justice.fr. Très bien. Et eh ben je vous envoie un mail dans la foulée.
Ok.
Merci beaucoup en tout cas. Bon, au revoir.
Au revoir.
Vous aussi. Sofian Boulard, par mail, plus tard.
J'ai rédigé le réquisitoire définitif courant décembre 2020 sur ce dossier, en requérant un certain nombre de non-lieux, ce qui atteste de l'impartialité du parquet de Bar-le-Duc, guidé exclusivement par le droit et les intérêts de la société. Dès mon installation en septembre 2020, j'ai pris soin de donner des instructions précises permettant la régulation, la limitation des contrôles opérés sur autorisation du procureur, et la pleine conformité des réquisitions au code de procédure pénale. J'ai réaffirmé la finalité judiciaire de ces contrôles en rappelant que ces derniers ne peuvent avoir pour objectif de prévenir un trouble à l'ordre public, mais ont pour mission la recherche d'infractions pénales. J'ai pris soin de circonscrire dans le temps et l'espace le périmètre des contrôles afin de prohiber le risque de contrôle généralisé. Sur mes instructions, le groupement de gendarmerie de la Meuse a pour obligation de motiver leur demande de contrôle judiciaire sur des considérations objectives, en recensant les faits de délinquance et de plainte sur le secteur visé et dans une période récente.
Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que sa réponse est prudente, pas évidente à comprendre, et que, en tout cas, elle ne dédouane en rien son prédécesseur. Du coup, je suis aussi allée demander leur avis à Margot et Antoine, les deux juristes en droit humain qu'on a interviewés un peu plus haut dans l'émission.
Donc, l'utilisation de cette infraction, en l'occurrence, ça a permis de développer dans le cadre de l'instruction judiciaire, donc dans le cadre de cette enquête, une quantité de moyens assez phénoménale. Est-ce que vous pensez que les moyens qui ont été mis en œuvre pour enquêter, ils sont appropriés ?
Eh bien, justement, c'est là que ça montre bien l'utilité en fait du délit d'association de malfaiteurs pour la police et pour l'État en général. C'est-à-dire que si on avait seulement poursuivi pour les faits matériellement commis, à savoir les dégradations, les manifestations non autorisées et même les départs d'incendie, on voit tout de suite qu'en fait, on n'aurait pas mis sur écoute des dizaines et des dizaines de personnes. En fait, tout ça n'était justifié et même autorisé que parce qu'il y avait un délit d'association de malfaiteurs autour de ça.
Donc, ce qui veut dire que c'est complètement disproportionné finalement. Le but, c'est vraiment de, pour eux à la fois, de démontrer que les personnes s'entendent et pour commettre des délits. Ce qui est certes un petit peu compliqué parce que dans ces milieux-là, il a été dit que les gens s'organisent pas de la même façon, que c'est des modes d'organisation qui sont compliqués à comprendre pour les fonctionnaires de police, etc. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on a vraiment besoin de milliers d'heures pour réussir à prouver que certaines personnes se connaissent et étaient d'accord pour aller faire une manifestation ? Peut-être pas, non, ça leur a vraiment permis d'aller chercher toute la toile du réseau, de pouvoir savoir ce qui se passait partout dans le milieu antinucléaire autour de CIGEO. Donc ils s'en sont servis, c'est certes légal, mais c'est complètement disproportionné.
Est-ce que vous êtes d'accord avec... Donc l'analyse qui a pu être faite par Raphaël Kems, qui est un des avocats des personnes mises en examen, et pour lui, c'était une utilisation des moyens du droit et de la procédure pénale dans le but de faire du renseignement qui est de nature politique. Est-ce que vous partagez cet avis ?
Oui, absolument. C'est bien ce qu'on voit avec les poursuites pour association de malfaiteurs dans le contexte de Bure. C'est-à-dire que ça permet en fait ce délit d'avoir une machine répressive, une machine de renseignement qui se met en place sur des bases légales, donc celle de la poursuite pour association de malfaiteurs, et qui finalement va criminaliser des personnes qui n'ont pas participé ni de près ni de loin à la commission des délits qui sont des infractions qui sont reprochées, et qui va permettre de faire du renseignement de manière très très large sur tous les militants et toutes les militantes. Donc on voit bien que ça va avoir un impact extrêmement dissuasif sur l'organisation d'événements contestataires de manière générale.
En fait, pourquoi est-ce que à ce moment-là, dans le cas de Bure, on va mettre autant de moyens? C'est parce que c'est là où l'État a envie d'aller chercher. C'est là où l'État se sent en danger, là où la justice pénale joue son rôle en venant protéger l'État et ses intérêts.
Est-ce que l'État pourrait pas rétorquer, mais regardez, là en face, on a des criminels qui sont prêts, en tout cas de manière organisée dans un réseau d'extrême gauche, ils sont prêts à mettre en péril que ce soit la démocratie, utiliser leurs éléments de langage, ou à attaquer des installations nucléaires, ce qui peut être dangereux. Qu'est-ce qu'on pourrait rétorquer à ce genre de rhétorique?
La première chose qu'on peut rétorquer, c'est que les personnes de Bure, comme n'importe quelle personne, ils ont des droits. Donc, c'est pas parce que on a peur qu'ils fassent des choses qu'on peut leur retirer tous leurs droits et se lancer dans des procédures qui vont complètement bafouer leur droit à la vie privée, leur droit à la liberté d'expression, à la liberté de manifestation et tout simplement leur droit à avoir une opinion politique. C'est la première chose à dire. Deuxièmement, dire ensuite que la démocratie est en danger et que peut-être ils vont commettre des actes criminels, en fait, c'est penser complètement à rebours de ce qu'est censé être le droit pénal. Le droit pénal intervient lorsqu'il y a une matérialité des faits ou est-ce qu'il y a des preuves pour dire que les personnes vont commettre des actes. De dire que la démocratie va être mise en danger, c'est une pensée politique, c'est pas du tout une pensée pénale ou judiciaire.
Est-ce qu'on peut parler d'un traitement spécifique réservé au mouvement antinucléaire?
Je pense qu'on peut dire que c'est pas spécifique dans la nature de la répression, mais plutôt dans son intensité. C'est-à-dire que, justement, le nucléaire, c'est un sujet stratégique pour l'État français, c'est l'énergie, c'est la suprématie militaire, etc. Contester ça, c'est contester des intérêts économiques et politiques et militaires qui sont extrêmement forts, derrière lesquels il y a non seulement des individus puissants, mais aussi des organisations. Donc oui, ça va faire l'objet d'une répression plus acharnée que sur d'autres sujets, mais ce phénomène de réprimer judiciairement pour dissuader politiquement, on va le retrouver à différentes échelles, en fait, sur tout un tas de sujets.
Tu écoutes Zoom Écologie sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
Ce soir, l'équipe des Radios vous propose une émission sur la répression du mouvement antinucléaire de Bure et plus largement celle des mouvements sociaux en France.
Bonjour Lionel Brun-Valicon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à cette interview. Donc vous êtes membre du comité central de la LDH, la Ligue des droits de l'homme, et responsable du groupe de travail environnement. On a vu dans le reste de l'émission, nous avons eu une intervention de deux juristes qui nous ont parlé un petit peu de l'association de malfaiteurs et de ce que permettait l'instruction pour cette infraction. Et notamment, on s'est basé sur l'enquête conjointe qui a été menée par Mediapart et Reporters et qui a été publiée donc en avril 2020. Mais avant cette enquête, vous alertiez déjà avec la LDH en publiant un rapport le 20 juin 2019 dans lequel vous faites état de réquisitions répétées délivrées par le procureur de la République à l'époque, donc Olivier Glady, qui ont pu autoriser des contrôles d'identité récurrents. Et après, vous parlez de la multiplicité des poursuites qui ont été menées à l'encontre des militants et des militantes, donc entre 2016 et 2019. Ce qui est un peu frappant dans le rapport auquel vous avez contribué, c'est donc la multiplicité de ces réquisitions qui, pour certaines, avaient lieu, permettaient des contrôles d'identité de 9h du matin jusqu'à 13h30, puis de 14h à 19h. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette quantité-là et qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant dans votre rapport?
Oui, en fait, à ce moment-là, donc il y avait des éléments dont on disposait, c'était les témoignages de personnes, donc qu'il s'agisse d'opposants d'ailleurs ou d'autres habitants des communes concernées. sur le fait qu'il y avait un nombre de contrôles d'identité très important et aussi de contrôle des véhicules. Voilà, et donc c'est effectivement de là qu'est parti entre autres aussi notre volonté de voir dans quelles conditions ces contrôles étaient effectués.
Dans le rapport, donc, vous soulignez qu'il y a eu notamment des contrôles répétés, donc effectivement sur la base de témoignages, et notamment par exemple en avril 2017 où la gendarmerie nationale, au cours d'une projection, a relevé systématiquement les numéros de plaques d'immatriculation des personnes qui étaient venues à la projection. Donc il y en a tout un tas d'autres. Mais tous ces contrôles d'identité, ils ont eu lieu avant même que l'instruction pour association de malfaiteurs n'ouvre d'encore plus de possibilités de contrôle, il me semble.
Oui, bah, c'est-à-dire que effectivement, c'est pas du même ordre. C'est-à-dire que les perquisitions qui ont été faites, notamment, là relèvent véritablement de l'instruction, alors que effectivement, disons que le procureur de la République, il peut permettre cela en dehors d'une instruction. C'est pas tout à fait dans le même cadre.
Et vous en arrivez à vous posez en fait la question dans votre rapport de la question de la partialité, ou plutôt de l'impartialité du parquet, du tribunal de Bar-le-Duc. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous questionnez sur cette impartialité à ce moment-là, au moment de la publication du rapport ?
Oui, alors ça c'est surtout en fait les résultats de l'observation d'audience, enfin, de témoignages aussi et d'audience précédente, mais donc l'observation qui était faite par un membre de la Fédération internationale des droits de l'homme, qui était donc belge, et qui a été mandaté pour voir comment se passait une audience. Et effectivement, il a relevé qu'il y avait une attitude du représentant du parquet qui était assez étonnante, avec ce qu'il a appelé une forme de provocation pendant les audiences. Donc ça, ce qui paraissait quand même le plus attentatoire aux droits et aux libertés, c'était les mesures qui là étaient prises dans le cadre de l'instruction et qui imposaient aux personnes qui faisaient l'objet des incriminations de ne pas se réunir, de ne pas entrer dans une zone. C'était des mesures très restrictives qui en fait fondamentalement empêchaient les personnes, les opposants de pouvoir mener leurs activités de l'opposition politique à un projet. Donc voilà, il y a une forme d'utilisation de moyens liés à une enquête pour priver d'existence une forme d'organisation politique. Et normalement, les libertés d'association et d'expression sont protégées par la Constitution.
Et vous avez des conclusions qui sont très fortes. Vous concluez les autorités publiques se livrent à un harcèlement contre les opposants aux cibles d'enfouissement destinées à criminaliser leur position et leurs manifestations, et qui a pour effet de porter atteinte aux libertés individuelles. Le terme de criminaliser, c'est pas la première fois que je l'entends à ce sujet-là. Qu'est-ce que ça veut dire que les autorités publiques criminalisent leur position?
C'est-à-dire que, par exemple, l'infraction d'association de malfaiteurs, c'est quand même quelque chose qui est grave a priori. Et donc on est bien dans une forme de l'utilisation de ces infractions pour d'une part asseoir le caractère grave de l'ensemble des autres infractions. Donc ça c'est des choses qui vont être discutées lors de l'audience de début juin, mais aussi, et c'est ce que je disais, le fait que ça prive l'enquête a privé les opposants des moyens de s'organiser sur la question qui les occupait du projet CIGEO. Et c'est en ce sens qu'on considère qu'il y a une partie du moins de l'enquête qui a servi à créer des mesures restrictives pour ciblant les opposants pour empêcher qu'ils se réunissent et qu'ils travaillent sur les questions du projet de CIGEO.
Est-ce qu'on peut dire que c'est spécifique à ce mouvement en particulier ou au mouvement antinucléaire en général. Cette manière, disons, de, bah, en fait, d'utiliser des infractions mineures, enfin, de s'appuyer sur des infractions mineures pour surveiller finalement ce que vous mettez en avant, pour surveiller tout un mouvement.
Alors, la question de l'association de malfaiteurs, elle a une histoire. Hein. Effectivement, on peut, c'est pas uniquement dans le mouvement antinucléaire qu'on relève la tentation d'utiliser cette incrimination pour gêner une opposition politique. En revanche, pour ce qui concerne les militants nucléaires, il y a d'autres cas, effectivement, où il y a eu des associations qui ont été gênées dans leurs activités avec, disons, des procédures bâillons. Enfin, j'ai en tête assez récemment, peut-être il y a un ou deux ans, une procédure qui visait Greenpeace et où il y a eu des astreintes pour éviter que les militants de Greenpeace ne puissent participer à, la documentation des passages de convois portant des matériaux nucléaires. C'est l'entreprise Orano avait demandé au juge qu'il y ait une astreinte si jamais des gens qui se réclamaient de Greenpeace parvenaient près des convois, sachant que comme il n'y a pas d'information sur l'endroit où se trouvent les convois eux-mêmes, c'est une obligation qui est impossible à respecter dans l'absolu. Mais voilà, en fait, le but de demander cette astreinte et le fait que l'astreinte ait été obtenue auprès du juge, c'était d'éviter qu'il y ait ce travail d'information par Greenpeace sur le fait que des convois passaient à proximité de telle ou telle agglomération, etc. Donc oui, c'est des choses qui sont utilisées.
Vous parlez de procédure bâillon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Oui, enfin c'est pas un terme qui est technique. Hein. C'est simplement le fait d'utiliser une procédure de manière large et parfois abusive. Donc la juridiction ne reconnaît pas forcément qu'elle est abusive. Elle peut donner droit à la personne qui a tenté cette procédure, mais qui a pour vocation d'éviter une association ou des personnes s'expriment sur une question et en particulier sur les intérêts industriels.
C'est ce qu'on voit en particulier avec les attaquants de diffamation, par exemple, qui se multiplient un petit peu à l'encontre d'associations.
C'est sûr que c'est exactement. Là, ce n'était pas le cas, mais effectivement, moi j'ai en tête le cas d'Inès Leroux, par exemple. Donc, ce n'est pas du tout la lutte antinucléaire, mais c'est autre chose. Mais il en a été question ces dernières semaines où, effectivement, il y a eu des procédures en diffamation qui ne se justifiait sans doute pas, en tout cas, et la personne qui a intenté la procédure en diffamation s'est dessaisie dans la dernière en date, juste avant, et effectivement, ça pousse les personnes qui travaillaient pour mettre au jour des pratiques industrielles qui sont dangereuses pour l'environnement, dangereuses pour la santé, à les mettre dans une situation où elles doivent se concentrer sur le fait de répondre à ces procédures. Et donc voilà, le temps qu'elles y consacrent, elles ne le consacrent pas à travailler sur ces affaires.
Oui, Inès Leroux qui, rappelons-le, est donc journaliste et qui a publié une enquête sur les algues vertes en Bretagne et qui met un petit peu en avant la culpabilité ou la responsabilité à la fois d'entreprise et de politique dans cette affaire. Moi, je pensais aussi à plus récemment à Assa Traoré qui est attaqué en diffamation pour avoir dénoncé et nommé les gendarmes qui, pour elle, sont responsables de la mort de son petit frère Adama Traoré.
Des libertés qui sont aussi bafouées dans un contexte plus large, celui des manifestations en France. Analyse avec Sophie Saint-Père, chargée de plaidoyer liberté à Amnesty International.
Vous êtes la rédactrice d'une enquête qui s'intitule « Climat d'insécurité totale, arrestation arbitraire de manifestants pacifiques le 12 décembre 2020 à Paris », dans laquelle vous dénoncez des détentions arbitraires à cause de la formulation vague de certaines lois, ce qui est par exemple le cas d'un article, donc l'article 222.12.2 du Code pénal qui a été voté en 2010 et qui condamne le fait de participer sciemment à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires contre des personnes ou des biens. Est-ce que vous pouvez nous éclairer et nous dire qu'est-ce qui est vague dans cette loi ?
Alors en fait, c'est pas tant un problème de ce qui est vague, parce que si on lit, on pourrait se dire qu'il s'agit de participer sciemment, donc il doit y avoir des éléments de volonté à un groupement pour commettre des violences, donc ça pourrait être un délit acceptable. La difficulté qu'il y a, c'est la manière dont il est appliqué. puisque ce qu'on constate dans le cadre des manifestations, c'est que des personnes sont interpellées et placées en garde à vue sur la base de ce délit, alors qu'il n'y a absolument aucun élément qui démontre qu'elles participent à un groupement dans le but de commettre des violences. C'est quelque chose qu'on avait documenté déjà dans un précédent rapport, on listait toutes les types d'incriminations qui étaient utilisées contre les manifestants. Le délit de groupement en vue de la préparation de violence faisait partie des lois utilisées contre les manifestants pacifiques en France. Et à ce moment-là, souvent, les personnes étaient arrêtées parce qu'elles détenaient des objets, ça pourrait être des lunettes de piscine dans le sac. Donc il en était conclu qu'elles allaient se rapprocher des gaz lacrymogènes, donc voire commettre des violences. Donc déjà ça, c'était une interprétation qui était très problématique, puisqu'en fait, toute personne risque d'être confrontée aux gaz lacrymogènes en France en manifestation, et c'est un vrai problème. Mmh. Et ce qui nous a un peu marqué dans cette enquête du 12 décembre, c'est que là, il n'y avait même plus, enfin dans très très peu de cas, l'excuse des objets que les personnes avaient sur elles. Donc en fait, on avait plutôt l'impression qu'on était sur des arrestations parfaitement arbitraires et hasardeuses au sein du corps.
Surtout qu'à la fin, on voit que une fois que ces personnes-là sont jugées, moi, ce qui m'a marqué dans votre rapport, c'est que finalement, vous parlez du fait que 80% des personnes interpellées, finalement, elles ont fait l'objet d'aucune poursuite. Donc, on voit bien que finalement, ça tient pas, quoi, et que ça relève de l'arbitraire.
Oui, en fait, ces personnes ne sont pas jugées parce que il y a quand même un filtre qui est fait, un filtre judiciaire, ce qui fait que, en fait, il est assez rapidement constaté qu'il n'y a pas lieu de poursuivre ces personnes. Et donc, en fait, la plupart sont relâchées sans rien, mais après avoir passé 12, 24, voire 48 heures en garde à vue, et c'est pas du tout anodin une garde à vue. Donc, ce sont des privations de liberté pour aucune raison. Et c'est vrai que c'est évidemment normal qu'une partie des gardes à vue se termine sans qu'il y ait de poursuite, puisque la garde à vue sert à enquêter, ensuite on décide ou non de poursuivre, mais c'est le taux d'absence de poursuite qui alerte. La très grande majorité ensuite n'est pas poursuivie, ce qui montre qu'en fait la très grande majorité des arrestations ne sert à rien.
Est-ce qu'avec Amnesty, vous avez fait ce constat dans d'autres mobilisations ?
Avec Amnesty, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur les manifestations. Au départ, on se penchait plutôt sur la question des violences policières, puis on a voulu s'intéresser à un sujet qui était moins couvert, qui était celui de l'utilisation du droit pénal contre les manifestants pacifiques. Et donc, on a produit une enquête qui couvre la période de fin 2018 à mi-2020 environ, où on a essayé de documenter ces pratiques d'arrestation de manifestants pacifiques. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, il y a des milliers de manifestants qui étaient arrêtés, détenus et parfois poursuivis sur la base de loi, mais qui n'avaient commis aucune violence. Donc en fait, on se rend compte que cet arsenal juridique est largement utilisé contre des manifestants pacifiques, ce qui est plus problème parce que ça constitue une entrave au droit de manifester, qui est un droit fondamental, qui relève de la liberté d'expression. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on a documenté, alors qui a joué à plein pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais qui s'est poursuivi par la suite, que ce soit dans le mouvement contre la réforme des retraites ou dans des cas de manifestation pour les droits des soignants, et puis plus récemment donc le cas qu'on avait documenté sur la manifestation contre la loi sécurité globale. Ça ne veut pas dire qu'à chaque manifestation en France il y a des arrestations, ça dépend, c'est assez variable, mais en tout cas ça peut se produire et les outils sont là pour le faire.
Vous parlez d'un arsenal, arsenal juridique, c'est hyper fort. Vous évoquez dans votre rapport plusieurs autres lois. Qu'est-ce que vous avez documenté comme autre, on va dire, appareil juridique qui permet ces arrestations ?
Toute une série de lois qui sont utilisées contre les manifestants, qui sont soit destinées spécifiquement aux manifestants, soit ce sont des délits plus généraux qui sont utilisés dans le cadre de manifestations. Je pense notamment à l'outrage, le délit d'outrage. Il n'est pas utilisé que dans le cadre de manifestations, il est utilisé très largement, mais c'est vrai qu'on le voit aussi apparaître contre des manifestants, et y compris contre des manifestants qui auraient chanté des slogans ou qui auraient des banderoles dont le slogan ne convient pas et va être qualifié d'outrage. Ensuite, il y a des lois qui ont été spécifiquement conçues pour le contexte de manifestation, notamment l'interdiction de se dissimuler le visage, qui est issue de la loi anti-casseurs. c'est une disposition qui est intéressante parce qu'il y en a une un peu similaire à Hong Kong qui a été censurée par la Haute Cour de justice de Hong Kong parce qu'elle estimait qu'elle était trop générale et que c'était une entrave à la liberté. Et en France, ça perdure, alors qu'il y a plein de raisons de se masquer le visage en manifestation. Et puis, maintenant que le port du masque est obligatoire, cette impression n'a vraiment plus aucun sens. On est sur une pure logique d'objectif de chiffre, de politique du chiffre, si l'idée c'est de placer un maximum de gens en garde à vue, alors que ça ne mène strictement à rien, que ça n'arrête aucun délit problématique, et qu'en fait, on est en train d'arrêter des manifestants pacifiques.
Et il y a une autre chose qui moi m'a interpellée quand je me suis documentée sur le sujet, c'est un peu le mouvement global que va dénoncer l'avocat Raphaël Kempf, qui a écrit un livre sur les lois scélérates, donc ces lois qui sont passées à la hâte entre 1893 et 94 en réaction à des attentats anarchistes. Et lui, il fait le rapprochement entre ces lois qui permettent pour lui qui introduisent en fait le délit d'intention et de volonté de commettre quelque chose, et ce, pour lui, ce qui constitue un retour à ce délit-là, ce délit d'intention, avec donc que ce soit la loi de 2010 dont on a parlé, la loi de 2018 que vous avez évoquée, ou encore l'introduction dans le droit de l'inscription dans le droit des mesures d'état d'urgence. Donc lui, il parle vraiment d'un mouvement global. Est-ce que vous partagez cette analyse?
Nous, là où on voit beaucoup de l'approche préventive, c'est dans les politiques de lutte contre le terrorisme, où on a introduit de plus en plus de mesures qui visent à arrêter d'éventuelles personnes qui auraient envie de commettre des attentats avant qu'elles aient commis le moindre acte. Et la difficulté, c'est que c'est de la même manière, c'est que les exigences de preuve deviennent de plus en plus faibles et que par ailleurs, dans matière terroriste, une grande partie de ces décisions va être laissée à l'administration, aux services de renseignement. Très concrètement, je parle de personnes qui peuvent subir des perquisitions ou être assignées à résidence sur la base de simples notes des services de renseignement. Et d'ailleurs, souvent, ça s'avère assez infructueux dans le cadre des perquisitions. Et cette logique préventive se diffuse effectivement en pénal et aussi sur la gestion de l'ordre public. Si on fait un lien entre la gestion de l'ordre public, le terrorisme et la gestion de l'ordre public, il doit remonter à 2015-2016 et l'état d'urgence, où on était en état d'urgence parce qu'il y avait eu d'énormes attaques sur Paris, une attaque terroriste, et très rapidement les outils mis en place ont été utilisés pour maintenir l'ordre public parce qu'il y avait des manifestations qui se préparaient d'abord dans le cadre de la COP, puis ensuite de la conférence sur le climat, puis ensuite dans le cadre des contestations la réforme sur la loi travail. Et en fait, très rapidement, les outils antiterroristes ont été utilisés pour maintenir l'ordre public et donc pour empêcher les désordres causés par les manifestations.
À Bure et dans ses environs, malgré la présence des gendarmes, les contrôles judiciaires ont pris fin en décembre 2020 et la vie continue. À l'annonce de la levée des contrôles, une amie m'appelle aussitôt. Nous parlons longtemps, avec tellement de choses banales à se dire pour retrouver l'usage de la parole. Et puis, il y a ce moment où, timidement, nous refaisons des pas les uns et les unes vers les autres, comme des aimants qui s'attirent irrésistiblement. Il y a peu d'intensité dans la vie qui traduit ce qui passe d'un corps à l'autre, lorsqu'on leur a si longtemps défendu d'entrer en contact. Cette seule étreinte est un défi lancé à l'adversité. Il n'y aura jamais de distance assez grande pour distendre ce que nous avons partagé et vécu ensemble. Lorsque nous revenons à Troyes, pour la première fois, à la Maison de la Résistance, nous sommes reçus par la chaleur de la cuisine, par les sourires heureux de nous voir de celles et ceux qui mesurent l'intensité symbolique incomparable de cet instant. Plus de traces sur les visages de ces douleurs et déceptions qui nous ont traversés longtemps. Juste une joie sincère et touchante de se retrouver là, avec tous ces liens profonds. Des larmes d'émotion, des étreintes, des regards complices, tout ce que nous avions cru un temps détruit et perdu à jamais. Le retour à la maison après une longue absence.
La répression n'a en rien entamé nos amitiés et nos affections. Elle a agi comme un puissant révélateur de leurs intensités. Il faut avoir peur de la répression, c'est même sain. Mais ça ne doit jamais tuer en nous le sens et l'envie de lutter. La répression peut dévorer nos espoirs et nous acculer à la désespérance et la renonciation. Mais la richesse colorée, la sincérité et la profondeur de nos relations agit comme une forte lueur qui tient en respect les ombres lorsqu'elles tentent de nous cerner. La répression peut pulvériser nos outils, déraciner nos ancrages, mettre à bas tous nos édifices, mais elle ne pourra jamais ôter en nous le souvenir de ce que nous avons construit et semé. Lorsqu'elle nous disperse, elle ne peut nous empêcher d'emporter avec nous ce que nous avons appris et l'envie de le faire germer ailleurs, plus tard, autrement, en le nourrissant des expériences dures ou belles que nous avons accumulées. Quelle que soit l'issue du procès, les 1, 2 et 3 juin prochains, nous sommes déjà réunis et nous le resterons.
Je dirais à partir de 2020, c'est vraiment là que moi j'ai commencé à revenir.
Jordi, militant en Meuse depuis 2017.
Il y a eu beaucoup de dynamique en fait avec des personnes nouvelles qui disaient en fait c'est super important et nous on veut parler de ce qui se passe ici et aussi de nos luttes, que ce soit je sais pas des luttes féministes, des luttes queer, des questions sur le soin et tout ça. Et en fait, on a envie de remettre de la vie et c'est ici qu'on veut vivre. Quand je retourne là-bas, je vois qu'il y a une énergie qui est dingue. Et je pense que ce qui est prévu un peu pour le procès et de toute cette fête qui est, c'est de dire, bah, en fait, la lutte, c'est quelque chose de joyeux. Moi, si je suis venu à Bure, au départ, c'est pas juste parce qu'il y avait un projet d'enfouissement, c'est parce qu'en fait, je voulais vivre... De manière un peu plus libre et de pouvoir vivre pleinement. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est toujours, je pense, un des fondements de la manière qu'on a de lutter sur place et de nos envies. On a envie de faire des événements, de faire venir des nouvelles personnes, de tisser des liens avec des gens en France, d'autres luttes, des gens du coin, des gens à l'étranger. Enfin, ça, c'est toujours le côté joyeux. Et en fait, la vie sur place, moi j'y étais encore cette semaine, en fait, on n'a pas parlé flic, on s'est fait une soirée cinéma, en fait, et ça, effectivement, on n'en parle pas forcément sur Mediapart, qu'on fait des soirées cinéma, peut-être qu'on devrait le faire plus, mais il y a une vie sur place qui est super. Là, le printemps arrive, on commence à faire des cueillettes, il y a l'ail des ours, il y a les projets de maraîchage, en fait, il y a toutes ces choses-là. En fait, la vie sur place, elle est super, et on est là aussi parce qu'on est heureux et que les gens qui vivent au quotidien dans leur routine, peut-être qu'ils n'ont pas de flics qui viennent les réveiller le matin, mais je pense que pour beaucoup, malheureusement, ils ont une vie beaucoup plus triste que celle qui est à Bure. Bon, donc voilà, c'est pas que du négatif, c'est une vie qui, je pense, est plus intense, voilà, avec ses bons et ses mauvais côtés, mais surtout ses bons côtés quand même. C'est pour ça qu'on vient, quoi.
Le 1, 2 et 3 juin, donc va avoir lieu le procès sur le site qui a été créé pour l'occasion. Nous sommes tous des malfaiteurs. Il y a un appel dans lequel il est appelé à faire de ce procès le procès de CIGEO et du nucléaire. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il y a cette volonté de transformer ce procès et d'en faire un peu un procès vitrine, en tout cas de le transformer en procès de CIGEO?
Julia, militante en Meuse depuis 2018.
Pour ces 3 jours, c'est vraiment de occuper le devant du tribunal et de pouvoir donc montrer tout notre soutien aux 7 personnes qui sont toujours inculpées et qui vont passer à la barre. Donc en fait, ces 3 jours de mobilisation, on veut en faire de cet événement, c'est qu'il soit joyeux et qu'on montre qu'on est toujours déterminé.
Et du coup, qu'est-ce que vous avez prévu pour ces 1, 2, 3 juin? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues justement pour animer un petit peu ces moments-là?
Oui. Alors, c'est tout un événement, enfin tout un programme d'événements, donc bien sûr qui sont festifs, avec des temps d'information, d'expression et de rencontre. Donc, sont prévus des tribunes, des débats. Il y aura des stands qui seront tenus aussi. Il va y avoir des moments des chants, avec des chants révolutionnaires et des chants sur la lutte anti-nuque et sur la lutte à vue et encore plus. Et il y aura aussi différents groupes et collectifs, personnes de un peu partout en France qui vont donc s'exprimer, parler de CGO, aussi de la lutte anti-nucléaire, de qu'est-ce que c'est que la répression, que ce soit dans cette lutte en particulier, mais aussi dans d'autres. C'est aussi de pouvoir invoquer tout ce qui touche nos luttes et du coup d'inviter toutes les personnes qui se sentent concernées par la lutte anti-nuque, la justice environnementale, sociale, de la lutte contre la répression de nos revendications et bien au-delà. Voilà. C'est de montrer notre présence en Meuse sur ce territoire en fait qui est donc vraiment cet événement pour qu'on puisse se rassembler, soutenir les amis et se retrouver parce que ça fait du bien aussi. de vraiment de célébrer notre lutte à cet endroit qui est qui nous concerne tous et qui nous touche tous dans la lutte à Bure et anti-nucléaire. On souhaite faire de ces 3 jours aussi le procès de CGO du monde nucléaire et de l'ANDRA. Voilà. Donc devant le tribunal va se tenir le théâtre en fait du procès de CGO, des promoteurs du nucléaire. Des pouvoirs publics et vont être appelés à la barre ces acteurs-là et aussi des militants anti-nucléaires. Voilà.
Vous retrouverez plus d'informations sur le procès et ce qui est prévu sur burburbur.info ou sur noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org. Zoom Écologie, c'est fini pour aujourd'hui. Un énorme merci à toutes les personnes ayant accepté de répondre à mes questions et à mes interviews. Merci également aux 2 personnes ayant prêté leur voix pour lire ce texte écrit par une des personnes mises en examen à la fin des contrôles judiciaires. Merci à toutes les personnes m'ayant aidé à comprendre les ressorts du droit pénal avec patience et pédagogie. Merci à celles et ceux qui mobilisent pour le procès du 1-2-3 juin et à toutes celles et ceux qui consacrent de l'énergie à la lutte depuis si longtemps. S'il fallait le refaire, nous serions nombreux et nombreuses à le faire. Très bonne soirée.
que ça fait. Si c'est ta faim que ça fait. Si c'est ton temps qui est fontaine.